Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine, je t'aide à faire de nouveaux pas en avant dans ton aventure à ton compte. Et cette semaine, on s'attaque ensemble à un sujet fondamental. Il y a une question qui brûle les lèvres de tous les indépendants, notamment au début de l'aventure. Cette question, c'est la suivante. Comment je fais pour trouver de nouveaux clients? Et quand on explore cette question, une des réponses qui arrive assez rapidement sur la table, c'est celle de la prospection ou du démarchage, qui est d'ailleurs quelque chose qui fait un peu peur à grand nombre de freelances, je crois. Et j'avais envie d'explorer le sujet un peu, avec l'intention de dresser un portrait plus large que simplement un guide pour bien prospecter. Et j'ai du coup invité Pauline Sarda à venir discuter avec moi de cette grande question. Si tu ne connais pas Pauline, son enjeu phare, c'est d'aider ses clients à générer et saisir de nouvelles opportunités d'affaires, des opportunités commerciales, notamment en exploitant LinkedIn. Dans cet épisode, on creuse donc dans son approche et ses réflexions pour créer des opportunités de nouveaux clients. Je parle moi aussi d'ailleurs de mes propres stratégies pour trouver mes clients au début de mon aventure, sachant que ma réponse n'a pas été la prospection. Et on va aussi partager pas mal de choses sur les outils et des choses très concrètes à faire pour débloquer tes prochaines missions. Ce sujet est clairement un indispensable à traiter, et je suis ravi de pouvoir te partager cet épisode sur le sujet, qui m'a d'ailleurs donné grandement envie d'aller plus loin dans la pédagogie que je propose, et j'ai décidé que j'allais davantage parler de ces sujets, notamment de prospection, d'opportunités commerciales, au travers de ma newsletter. Et si tu veux recevoir ça dans les prochaines semaines, je t'invite vivement à t'inscrire sur thomasburbidge.com/newsletter. Et sur ce, je te laisse avec ma conversation avec Pauline, et on se retrouve toi et moi à la fin pour le débrief. Bienvenue sur le podcast, Pauline.
Hello Thomas, merci pour l'invitation.
Très 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 content de te recevoir. On a pris un petit temps pour discuter en amont, mais on se disait que c'est la première fois qu'on a vraiment l'occasion de se poser et discuter genre en direct, entre guillemets, même s'il y a eu petits messages vocaux croisés par-ci par-là. Du coup, je suis trop content de pouvoir prendre ce temps avec toi.
Ben moi, je suis hyper contente que tu m'aies invitée. Hein. C'est un peu un honneur, tu vois, d'être invitée sur ton podcast. Donc, c'est très, très cool.
Cool. Ben, heureux que tu le vises comme ça. Du coup, je te propose qu'on rentre direct dans le concret des choses avec la première question rituelle que tu connais, du coup, qui est comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante?
Alors, moi, je suis devenue indépendante parce que... Le salariat et moi, on n'était pas faits pour... on ne fitait pas. je me sentais quelque part comme un... Je le disais beaucoup d'ailleurs à mes proches, je me sentais un petit peu comme un lion en cage, tu vois. Je sentais que mon destin, quelque part, était entre les mains de quelqu'un d'autre et j'avais besoin de contrôler mon destin, tu vois, quelque part. Et c'est clairement pour ça que je me suis lancée. C'est même pas pour être, pour gagner en liberté, pour être ça. Non, c'est pour assouvir en fait finalement mes ambitions, me donner les moyens de mes ambitions et pas avoir de barrières quoi. C'est vraiment ça qui a été déterminant pour moi.
Donc c'est une notion de pouvoir personnel entre guillemets. Genre si je veux avoir plus de pouvoir sur ce que je peux faire de ma vie, de mon temps. Ben, ça passe par l'indépendance plutôt que de laisser ça entre les mains de quelqu'un d'autre qui décide, quoi.
Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, au moins, je me suis dit, écoute, Pauline, tu seras autant responsable de tes échecs que de tes réussites. Et tu pourras pas remettre quelque part ton sort. Voilà, tu pourras pas dire c'était un tel, c'était ci, c'était ça. T'es 100% responsable et vraiment dans les deux sens. Et ça m'a donné une liberté, mais pas la liberté telle qu'on le dit, tu vois, en mode je travaille 2 heures par jour et je gagne des millions, tu vois. Ouais. C'est pas du tout ça, c'était vraiment la liberté de réaliser et de faire la vie que j'ai envie d'avoir, quoi.
Et je trouve cette notion de responsabilité, elle est hyper importante à mon sens. Et effectivement, quand... dans la forme de ce qu'on fait quand tu deviens indé et que finalement ouais voilà c'est ta responsabilité de tout gérer, mais il y a aussi cette dimension comme tu le dis si bien avec les échecs que je suis responsable de tout ce à quoi ressemble ma vie et c'est pas des choses qu'on m'impose de l'extérieur et je suis pas en train de subir et d'être un peu parfois en mode victime comme ça peut arriver, mais je trouve ça super cool que tu dises même les échecs, voilà, même quand ça marche pas, c'est moi en fait, et je trouve que ça donne énormément de pouvoir de se dire ça.
Totalement, je suis totalement d'accord avec ça, parce que juste avant d'entreprendre, bon, on va dire les 6 premiers mois, j'ai vécu plein de choses dans ma vie personnelle et en fait, je me suis dit, pour plein de raisons, essaye d'aller au bout des choses et fais, parce que jusque-là, j'étais pas dans le syndrome un peu victime, mais un peu quand même. Tu vois, je remettais toujours sur l'extérieur, etc. Et je me suis dit, non, à un moment donné... pour prendre tes responsabilités. Et du coup, j'ai eu ce déclic-là. Et c'est tout ce qui s'est passé avant qui m'a donné la force, quelque part, de me dire, dans tous les cas, tu as la main sur ta vie. Donc, tu peux tout faire. Tu vois, c'est vraiment ça.
Ouais, j'adore. Et du coup, si tu dis que ce switch-là, il est arrivé dans les mois avant de te lancer et de concrètement te dire, OK, maintenant, ça y est, j'ai mon statut et je commence. Je suis curieux dans la partie comment de la question sur le comment tu t'es lancé. C'est quoi l'impact que ça a eu que tu étais dans cette posture de « je suis responsable de tout » genre sur les premiers mois, par exemple?
Les premiers mois, en plus, ça a été difficile, pas comme tout le monde, mais on va dire peut-être une majorité. Les 3 premiers mois, j'avais pas du tout le bon positionnement. Là, à nouveau, j'avais l'impression de me buter un petit peu aux mêmes choses que j'avais quittées finalement dans le salariat. Donc, en fait, je me sentais pas à ma place. Et du coup, ça a été difficile parce que j'étais responsable aussi de ça. Mais du coup, je me suis très rapidement remise en question. Tu vois, j'ai repris mon positionnement. J'ai dit non, mais là, il y a un problème. Non seulement tu fais, tu reviens à quelque chose qui te plaît pas finalement, Et puis en plus de ça, tu n'arrives pas à aller où tu veux. Donc il y a un souci. Et donc là, j'ai revu mon positionnement, tu vois, mais hyper rapidement, au bout de 3 mois. Hein, je n'ai pas attendu 6, 7 mois, 1 an. Au bout de 3 mois, direct, je me suis. Voilà, j'ai switché en fait tout de suite.
C'est cool que tu parles de ça parce que je me dis, tu vois, c'est facile à mon sens de tomber dans la perception de se dire c'est un problème de marché. Genre, c'est les clients le problème, ils comprennent pas ce que j'ai envie de faire, ils comprennent pas mon métier, ils sont pas assez éduqués sur X, Y, Z, etc. Alors que effectivement, comme là tu l'illustres avec toi, mais je pense que c'est le cas pour plein d'autres personnes, souvent c'est un problème de positionnement en fait. C'est qu'on on voit pas comment est-ce que toi tu t'insères dans le puzzle de ce dont tes clients ont besoin. Et souvent, ça arrive beaucoup dans le milieu startup par exemple aussi, ces pivots incessants de début d'activité où tu changes rapidement de positionnement, offre, USP, de c'est quoi, qu'est-ce que tu proposes, etc., etc. Et du coup, c'est cool que tu en parles parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand on se lance en indé, de freelance, qui tombent dans le piège de c'est le problème du marché alors qu'en fait, c'est un problème de positionnement.
Ouais, totalement. Moi, j'ai eu la... Enfin, c'est même sûr, j'avais un problème de positionnement, mais j'avais aussi un problème, c'est un peu plus mindset, mais un problème d'alignement, tu vois. Et quand t'es pas aligné avec ce que t'es, avec ce que t'aimes faire, j'ai envie de te dire, bah, l'univers, il te rend, il te dit, bah, non, c'est pas pour toi. Donc, c'est bien, c'est bien d'être résilient, tu vois, et de poursuivre, et d'essayer les choses. Mais quand à un moment donné, tu sens que ça bloque et qu'il y a des choses qui vont pas, tu vois, quelque part, j'ai écouté un peu mon fort intérieur, quoi, tu vois, j'étais pas bien, j'avais peur d'ouvrir ma boîte mail, tu vois, j'étais pas là où il fallait que je sois, quoi, clairement. Donc j'ai écouté ça et j'ai retravaillé mon positionnement. Et puis aussi, parce que moi j'étais dans le commerce avant, pendant 5 ans quand même, et il y avait des choses qui me plaisaient, tu vois, dans le commerce. Et en fait, je suis venue puiser dans qu'est-ce que j'avais tant aimé dans le commerce et qu'est-ce que j'avais pas aimé. Et finalement, j'ai pris que ce que j'avais aimé faire et je l'ai mis dans ma nouvelle activité.
Et ça ressemblait à quoi, du coup, la première fois que tu te dis « Ah, ça y est, j'ai trouvé un truc où je sens qu'il y a une traction et que je me sens aligné. » Ça ressemblait à quoi, ce travail de « Je prends ce qui me plaît, j'enlève ce qui me plaît pas, je conceptualise une offre. » Je suis curieux qu'on zoome sur ce moment-là peut-être un peu plus.
Tu veux dire sur quelle méthodologie, par exemple, j'ai utilisée?
Ouais, comment tu as structuré le truc, comment tu savais, ça y est, je suis arrivé et je commence à voir que ça, ça porte.
Les indicateurs qui ont fait que. Alors déjà, moi, j'ai utilisé un outil qui est un peu galvaudé et tout, mais j'ai utilisé, moi, l'Ikigai, en fait, pour aller vraiment chercher... Ce qui me passionnait, ce dans quoi j'étais douée, entre guillemets. Donc déjà, je suis allée chercher là-dedans. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai du coup retravaillé mon pitch une fois que j'avais mon offre principale. J'ai retravaillé mon pitch et ça a été assez bluffant. C'est-à-dire que moi, dans ma stratégie, je m'imposais carrément de faire du réseau, mais du réseau physique, tu vois. Et je m'imposais... minimum un event par semaine, tu vois, c'était comme ça, c'était dans ma routine. Et ben, j'avais pu observer que clairement le pitch que j'avais zéro impact, quoi, mais zéro, rien. J'arrivais pas à construire de lien, les gens ne se souvenaient pas de moi, ne se souvenaient pas de ce que je faisais, de ce que je proposais, donc automatiquement ils pouvaient pas être amenés à me recommander ou même avoir envie de travailler avec moi puisqu'ils savaient pas clairement ce que je faisais. Et donc, carrément, d'une semaine à une autre, donc d'un event à un autre, j'ai changé de pitch. Et là, ça s'est vu tout de suite. La personne s'est intéressée, elle m'a dit « Ah ouais, tu fais ça, mais c'est super intéressant, etc. » Et là, ça a tout changé. Mais j'ai vu, en fait, le switch au pitch, quoi. Mais incroyable. Tout de suite, les gens m'ont retenu, tu vois.
Ouais, trop intéressant. Et c'est quoi, du coup, qu'est-ce que tu te souviens, et peut-être c'est un peu post-rationalisant, mais c'est OK aussi, de ce que tu as changé concrètement dedans. Est-ce que c'était les mêmes infos dans un ordre différent? Est-ce que c'était des infos complètement différentes? Est-ce que tu as changé tous les mots et toutes tes phrases? Enfin, c'était quoi la différence du avant-après sur le pitch?
Alors déjà, c'était plus simple, c'était plus court, forcément. Et surtout, moi, en tout cas, c'est ce qui a changé, c'est que j'ai fait le choix stratégique au départ de me nicher sur mon offre, en fait. Donc, tout de suite, j'ai dit, j'accompagne les entreprises à se développer sur LinkedIn. Alors, je sais plus exactement, il devait être un peu plus long à mon pitch, mais déjà tout de suite, ça a changé, quoi. Ça a changé, les gens m'ont retenu. Après, bien sûr, il y a tout qui compte hein, dans le pitch. Il y a aussi l'intention, il y a la manière de le dire, la manière de donner la carte de visite. Enfin, tout est important, je trouve, dans un pitch. Mais c'est ça qui a changé, c'est le positionnement et la simplicité du pitch. Pour moi, c'est clairement ça qui a fait que les gens sont souvenus quoi, de moi, finalement. Parce que pour moi, un bon pitch, c'est pas forcément, tu vois, on pense, enfin en tout cas quand on connaît pas trop, que le pitch, il va te permettre de vendre presque au claquement de doigts, mais en fait, non. le pitch, il va te permettre surtout d'accrocher et de faire que la personne, elle se souvienne de toi. Parce que dans une soirée réseau, il y a 200 personnes, si ton pitch, il n'est pas simple, il n'est pas accrocheur, on ne se souviendra pas de toi. Donc, par définition, ton réseau, il n'aura pas trop fonctionné, quoi, finalement.
Ouais, moi, je me souviens à l'époque où, quand j'habitais encore à Paris et que j'étais un peu dans ce mouvement aussi de j'ai envie de papillonner à plein d'endroits, à plein d'événements. Mon objectif avec la manière dont je me présentais, c'est que la personne me pose la question de « Ah tiens, est-ce que tu peux m'en dire plus ?» Et du coup, j'essayais constamment de changer un peu la manière dont je parlais pour que la personne me pose cette question et donc manifeste un intérêt et presque une autorisation à ensuite déblayer de manière plus approfondie. Et je voulais juste générer cette question en retour, tu vois. Et du coup, des fois, je disais des trucs complètement abstraits qui fonctionnaient des fois plus ou moins bien, seulement parce que je voulais que la personne me pose la question et qu'ensuite j'approfondisse plutôt que de partir direct dans mon monologue alors que je sais pas si ça l'intéresse et qu'elle est pertinente pour moi, tu vois.
Ah, super intéressant. Alors, j'aime beaucoup parce que je fais le parallèle un peu avec... moi, j'aime bien dire que j'accompagne un peu finalement sur la partie, en tout cas, plus développement commercial, etc., les entrepreneurs finalement à l'art de la conversation, tu vois, j'aime bien le dire comme ça. Et j'ai l'impression là, ce que tu dis, c'est un peu l'art de la conversation, c'est-à-dire poser les bonnes questions et finalement aussi essayer en tout cas d'amener la personne à te poser la bonne question. Tu vois, en tout cas là, c'est comme ça que tu l'as fait. Et du coup, je trouve ça hyper puissant, quoi, hyper intéressant, du coup.
Ouais, ça me renvoie aussi, c'est drôle, je ne sais pas ce qui s'est fait comme lien dans ma tête, mais ça me renvoie à peut-être la manière de le faire en ligne, tu vois. Et genre là, je viens de faire la connexion avec tous ces messages qu'on peut recevoir, je pense, surtout sur LinkedIn, en tout cas pour les gens qui sont un peu actifs sur LinkedIn, tu dois vivre ça aussi, les espèces de messages de démarchage qu'on reçoit, qui sont un peu comme si c'était un événement physique, il y a quelqu'un qui se pointe devant toi et qui commence à te parler, et qui sont, mais genre, ils arrivent avec leur monologue, ils te le posent sur la table, et voilà, ils attendent que tu répondes, et en vrai, ça invite pas du tout à la conversation, en fait. Ça invite juste à dire, ok, je prends ma bière et je me casse. Ciao. et du coup, je sais pas, voilà, ce parallèle-là, ça fait dans ma tête.
Ouais, mais c'est totalement ça. Après, je pense que... tu vois, ça aussi, ça s'apprend, tu vois. Même moi qui ai fait des années dans le commerce, même moi au début de mon activité, j'étais loin d'être, et même encore aujourd'hui, j'en apprends tous les jours, les façons d'aborder, etc. Et voilà, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des gens derrière. Et du coup, le digital vient rajouter des barrières alors que. Moi, je dis souvent à mes clients, si tu le ferais pas dans la vie, ne le fais pas sur les réseaux sociaux, en fait. Tout simplement, tu vois. Il faut aussi rester logique et il faut penser aussi que ce sont de vraies personnes derrière leur écran, derrière leur compte. Et du coup, il faut avoir un réel intérêt pour les gens. Et il y a plein de façons, plein de leviers, on va dire, pour converser, tu vois.
Ouais. Et je trouve ça super important ce que tu racontes là pour autre chose sur laquelle je pensais qu'on pourrait arriver dans cette conversation, qui est la prospection, qui est un truc qui fait ultra peur à beaucoup de gens, je crois. Mais tu vois, quand je vis et je reçois cette prospection qu'on fait vers moi des fois sur LinkedIn, effectivement, j'ai l'impression qu'ils ont oublié que la fondation de tout, c'est créer des relations avec un autre être humain qui a une vie tout autant complexe que eux. Et il y a un moment où ça me l'a ancré encore plus. Hier soir, j'étais à un rendez-vous dans le coin ici en Dordogne, une réunion pour la création d'un tiers-lieu où il y a des gens qui se sont réunis, ils sont en train de créer un tiers-lieu. Et je me suis dit, ah, trop stylé, je vais rencontrer des gens cool là-bas qui sont dans mes valeurs. Et il y a une personne qui était là, qui est venue me parler, et voilà, il y a eu toutes les interactions et je me suis présenté un peu, et qui est venue me voir à la fin en disant, putain, je suis en train de réfléchir à lancer un podcast, parce que j'avais parlé de mon podcast et tout, et qui me raconte sa vie, et qu'elle est en train de se lancer en tant que praticienne Reiki, et que son mari, qui est comptable, est en mode, il sait pas trop, parce que c'est risqué, la sécurité, il veut pas trop qu'elle quitte son job, et ils ont deux enfants, et ils ont deux emprunts, et tout, et c'était hyper touchant pour moi, parce que je me dis, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui sont plus ou moins dans la même situation, qui me suivent sur Insta ou sur quelque part comme ça. Et quand tu te connectes vraiment à son histoire et à l'enjeu que c'est dans sa vie de se lancer à son compte et commencer à faire tous ces trucs, tu vois, moi, ça me ramène à, putain, mais il y a des gens, genre, clairement, c'est ouf ce qu'ils sont en train de vivre et toutes les briques et tous les morceaux qui sont imbriqués dans ce moment de vie-là. Et ça me raccroche à pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de conserver ce côté. Chaque personne qui me suit sur Insta, c'est un être humain avec une vie potentiellement tout aussi complexe que celle de cette personne. Et je trouve ça hyper important de revenir à ça et pas de s'arrêter à, voilà, toi, j'ai vu tout à l'heure que t'as 36 000 personnes qui te suivent sur LinkedIn. Moi, c'est 15 000 sur LinkedIn. Enfin, et on se perd assez rapidement, je trouve. Et je pense que c'est hyper important de revenir à cette dimension humaine de une personne, une vie compliquée, tout ça.
Ouais. Complètement. Ouais, je pense que j'ai même rien à rajouter parce que t'as dit exactement ce qu'il fallait par rapport à ça. C'est hyper important de ne pas oublier ça, quoi.
Et du coup, ma question pour toi, pour te permettre d'approfondir, c'est comment tu prends cette fondation-là, d'être dans la dimension humaine de nos rapports, pour créer des conversations, que ce soit en physique ou en numérique, sur LinkedIn ou sur Insta, peu importe, et démarrer du bon pied, entre guillemets.
Ouais. Bah, déjà, il faut savoir que l'être humain, chacun d'entre nous, on a tous une part d'égoïsme en nous. C'est humain. Donc, ça veut dire que n'importe quel être humain, bah, lui, ce qu'il aime, c'est qu'on lui parle de lui. Tu vois ? Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Si tu veux avoir une conversation avec quelqu'un, ne lui parle pas de toi. Il s'en fout de toi. Bien sûr, c'est si le « et toi », le « etc. », l'intérêt vient en retour. Bien entendu, on va pas arrêter la conversation là. Mais déjà, je pense que la première chose, c'est vraiment de s'intéresser sincèrement aux autres. Mais pas seulement, parce que c'est très facile aussi de devenir presque trop stratégique et de s'intéresser aux autres presque faussement, tu vois. Moi, c'est quelque chose que moi, j'en suis incapable, tu vois, de faire ça. Si la personne, fondamentalement, ne m'intéresse pas, mais même pas forcément pour un objectif business, je vais pas aller lui parler, ou alors, elle va comprendre que j'ai pas forcément envie de parler. Donc, je pense que c'est important aussi de garder quand même cette dimension sincère. Donc, ça veut dire s'intéresser finalement, sincèrement, à la personne qui est en face de toi. Et puis après, ça va être, notamment sur les réseaux sociaux, où clairement, c'est hyper facile. C'est de trouver des points communs, tu vois, si tu n'arrives pas à approcher quelqu'un, trouve des points communs. Et les réseaux sociaux, le nombre de données, en fait, qu'on a sur quelqu'un, même pas forcément intime, mais sur quelqu'un, son métier, sur depuis combien de temps ce qu'il fait, notamment, tu vois, sur LinkedIn, où, pour le coup, les données sont plus orientées vers le pro. Mais tu peux très facilement trouver des points communs, t'intéresser à la personne. Et déjà, tu vois, par exemple, les points communs, ça va être, moi, ce que j'appelle le prétexte de mise en relation, tu vois, parce que il faut trouver un prétexte de mise en relation. Je vais pas taper sur l'épaule des gens, tu vois, dans la rue, et puis je leur dis hey, ça va, alors bon, je m'appelle Pauline. C'est ça. Donc, et ben pourtant, c'est exactement ce qui se passe, notamment sur LinkedIn, tu vois, c'est exactement ça. C'est, les gens t'ajoutent, ne te parlent même pas, ne s'intéressent même pas à toi, se connecte à toi juste pour avoir leurs chiffres qui augmentent de leur côté, tu vois, mais qui pensent à aucun moment à ce que toi, tu vois, Et ça, c'est dommage. Donc, ouais, je pense qu'en fait, il faut revenir un peu aux fondamentaux. Faut s'intéresser aux gens, il faut trouver des points communs. Après, bien sûr, tu vas avoir tous les leviers extraordinaires liés au contenu. Le contenu met les gens en lien. Et ça, il faut saisir, tu vois, chaque personne. Justement, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, chaque personne, potentiellement, il peut y avoir une conversation, il peut y avoir un intérêt. Et ouais, c'est un peu, je trouve, ce qui se fait pas trop, finalement, un petit peu à cause des, de l'image qu'on peut se faire, par exemple, de l'inbound marketing, où on a l'impression que les gens, ils viennent un petit peu tout seuls à toi. Mais avant d'arriver, d'atteindre ce point-là d'inbound, de véritable inbound, mais avant, il va falloir que tu t'intéresses aux autres, parce que sinon, tu vas attendre très longtemps. Et le levier, c'est le contenu en partie, tu vois, ou les réactions.
C'est cool que tu parles de ça, parce qu'il y avait un sujet que je voulais qu'on creuse, qui est justement ça. C'est, je pense, dans notre écosystème, il y a énormément de gens qui parlent de la création de contenu, le fait de construire un truc où tes clients viennent par toi-même et ainsi de suite. Et je pense que c'est super facile de fantasmer sur ça, tu vois, de fantasmer sur « je vais juste écrire des articles ». J'aurais pas besoin de passer la peur d'aller discuter directement avec des gens et les trucs vont m'arriver. Et c'est vrai que sur le long terme, c'est potentiellement possible. Et je pense que toi et moi, on commence aussi à goûter à ça. Mais clairement, au début, je pense que pour beaucoup de personnes, bien faire de la prospection et bien être dans une réflexion de « je veux créer des nouvelles rencontres et des opportunités qui dérivent de ces rencontres », c'est clairement la meilleure voie, tu vois. Parce qu'on peut tomber dans ce fantasme de l'inbound et faire ça et ne pas avoir de résultats pendant je ne sais combien de temps, quoi.
Exactement, ouais. Moi, j'aime bien appeler ça le marketing de l'espoir.
J'adore.
parce que c'est du c'est du marketing de l'espoir parce que, il faut… l'inbound marketing, en tout cas au départ, ne dispense pas. En fait, on a l'impression, tu vois, ouais, mais moi, je veux utiliser l'inbound marketing pour éviter d'avoir à me vendre et pour éviter d'avoir à avoir des conversations. Mais en fait, non, ça ne t'en dispense pas. Mmh. Et si tu veux que ça marche, tu vas devoir converser, tu vas devoir faire du réseau, tu vas devoir animer tout ça autour de toi. Et ça ne va pas se faire tout seul, entre guillemets, juste avec ton contenu. Déjà il faut le dire, la création de contenu est aussi un job, hein, mais en tout cas, à lui seul, ne se suffit pas. Tu vois, il faut aller se confronter au terrain, quoi, quelque part.
Ouais, 100% d'accord avec toi. Et du coup, la question qui suit, je pense, c'est s'il y a des gens qui nous écoutent qui disent « Putain, ils ont trop raison, moi j'étais un peu dans mon coin là en train de faire mes trucs. » Ok, qu'est-ce qu'on leur dit de faire, tu vois, c'est quoi la prochaine step? Ok, il faut que j'aille créer des conversations. Pauline, qu'est-ce que je fais?
Déjà, si les gens qui nous écoutent, ils créent du contenu, par exemple, ne pas attendre que les likes se transforment un jour en lead ou bref, peu importe comment on les appelle. En fait, finalement, se servir de vos contenus comme levier de conversation. Et tout à l'heure, tu parlais de… toi, ton pitch, ce que tu cherchais à avoir, tu vois, la réponse que tu cherchais à avoir, eh bien, moi, je trouve que le meilleur contenu que j'appelle, moi, le contenu d'activation, le meilleur contenu d'activation qui puisse être, c'est le contenu que tu as rédigé avec pour objectif d'avoir une conversation qualifiée derrière. Une conversation qui te permette pas seulement de parler de la pluie et du beau temps, mais aussi et surtout de parler des problématiques auxquelles tu peux répondre. L'objectif, c'est que la personne avec qui tu échanges, tu puisses savoir où est-ce qu'elle se place quelque part sur ton parcours d'achat et déjà identifier ça. Et j'ai envie de te dire, si elle te manifeste une problématique à laquelle tu peux répondre, déjà là, on a un gros, gros indicateur, un gros levier qui est juste en face. Il suffit juste de tirer dessus.
Trop intéressant. Ouais. Genre, imaginons, je prends un exemple. Moi, en ce moment, les contenus que je suis en train de créer, ils sont autour de de sujets sur le marketing quand tu es indépendant, comment tu développes ton marketing et tout, parce que je prépare le fait de relancer mon séminaire sur le sujet en fin d'année. Et du coup, je pourrais très bien avoir un post pensé autour de les croyances qu'on peut avoir sur le marketing. Et ensuite, je peux poser la question aux gens à la fin de est-ce que vous avez, c'est quoi l'image que vous avez du marketing? Est-ce que vous avez une image mauvaise? Et en gros, tu dirais que tout commentaire ou like de ce post, c'est une bonne excuse pour moi pour ensuite aller discuter avec ces personnes-là et dire « Ah tiens, j'ai vu que tu as commenté mon post, je suis curieux de savoir ce que c'est tes croyances et c'est quoi l'image du marketing que tu as et d'où ça vient. » Et après, je discute avec chaque personne, c'est ça?
Ouais, par exemple. Ouais, c'est un bon exemple. Il y a plein de contextes différents, mais effectivement, oui. Et finalement, tu n'as plus besoin, c'est ça qui est génial, c'est que quelque part, tu n'as plus besoin de te dire « Il faut que j'aille… chercher une personne avec qui je n'ai jamais échangé. » Bah non, tu as déjà échangé quelque part avec cette personne. En tout cas, il y a déjà eu un point d'entrée. Bah, sers-toi de ce point d'entrée et n'attends pas. Je pense aussi que c'est une question de d'être en veille un peu sur son environnement, de voir les opportunités, d'être en veille. Et ça, je trouve en tout cas que ça manque. Un peu quand même beaucoup aux entrepreneurs, je trouve. Parce que il faudrait que tous les prospects viennent les voir et puis leur disent « J'ai besoin de toi, on prend rendez-vous. » Et
ouais,
non.
S'il te plaît, prends ma carte bancaire.
Non, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, un peu l'image du magasin, à partir du moment où il est ouvert, bah, y a des gens qui vont rentrer dedans et puis qui vont acheter, tu vois. Mais non. Et tu vois, là, je te parlais tout à l'heure au début de mon activité, je m'étais vraiment mis minimum un event par semaine, etc. Ben, ça aussi, ça faisait partie de ma stratégie, de faire des rencontres, mais pas forcément de vendre à tous les coups, tu vois. C'est pas ça le but. Et puis, de toute façon, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. On ne vend pas à quelqu'un qui n'a pas besoin de quelque chose. Donc, il faut aussi dédramatiser la vente. La vente, c'est aider quelqu'un, tu vois.
Carrément.
Donc, ouais, j'ai perdu un petit peu le fil là, de notre conversation. On est parti dans la pensée en arborescence, tu vois, on est parti dans…
Ouais, t'en fais pas. Mais ce que j'entends, ouais, c'est que, en gros, le premier enjeu, et ça peut se jouer à plein de stades, j'imagine, mais le premier enjeu, c'est générer des conversations pour tisser un lien avec la personne, pour savoir ensuite, et j'imagine que c'est ça qui nous emmène de plus en plus proche de la phase qui est plus sur la vente ou la proposition, savoir… Est-ce que cette personne, elle a un problème que je suis en mesure de résoudre? Est-ce qu'elle est en recherche de le résoudre en ce moment? Et si oui, est-ce que je peux lui proposer quelque chose qui lui aille pour le résoudre?
Exactement, ouais, c'est exactement ça. Après, bien sûr, forcément, toutes les conversations que tu vas avoir, elles ne seront pas toutes… ton contact ne sera pas forcément toujours qualifié, ne sera pas toujours le bon moment, etc. Et c'est là aussi que c'est important de suivre ces relations-là, quoi, pour pas un petit peu comme un vieil ami, tu vois, où il y a des gens qui ont l'habitude de reprendre des nouvelles de temps en temps, et puis il y en a qui le font pas. En business, il vaut mieux savoir faire du réseau, savoir avoir un intérêt pour les autres, et aussi je pense que c'est important de pas forcément attendre un résultat maintenant.
Ouais.
Moi, dans ma manière d'aborder le réseau, le développement, etc., j'ai jamais été, tu vois, dans un truc de « je veux quelque chose tout de suite ». Je pense que c'est important de voir aussi sur le long terme. Grave. Il faut aussi, c'est hyper bateau ce que je vais dire, mais il faut donner sans attendre quelque chose en retour. C'est hyper important. C'est hyper important. Ouais. Et c'est comme ça que ça marche, que les choses fonctionnent, tu vois.
Ouais, grave, grave. Et je trouve que c'est pas forcément évident d'intégrer cette dimension-là, de se dire que en fait il y a des temps de décision qui sont parfois super longs. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que je l'ai conscientisé ce matin, pareil. Du coup, la personne que j'ai rencontrée hier, en gros, on parlait podcast et tout, elle disait tiens, j'ai vu peut-être une formation machin et demandez-moi des conseils. Et il se trouve que j'ai écrit un énorme article sur ma première année de podcast et tout ce que je pouvais dire dessus. Et je lui dis, je t'envoie cet article, je sais qu'il y en a d'autres, je te les envoie aussi. Va les checker et comme ça, ça te fera déjà commencer. Et du coup, on a réinteragi un peu ce matin en discutant sur Insta. Et elle me dit, ah, j'ai vu hier, j'ai checké ton Insta, ton site et tout, c'est trop stylé tout ce que tu fais. Et j'ai vu que tu fais de la forme du coaching personnalisé en individuel. Je pense que ça m'aiderait à avoir un cadre et tout. Et à ce moment-là, du coup, moi, je me suis dit, trop tôt. Et je lui ai dit, bah, va déjà voir ça, ça, ça. Et écoute le podcast parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent déjà te mettre en mouvement. Le coaching, on en parlera plus tard et on verra si c'est vraiment tes besoins. Et je pense que c'est pas une démarche que beaucoup de personnes a. Bon, il se trouve que, voilà, que j'ai pas de place dans mon coaching parce que c'est que 3 personnes sur 1 an. Et en même temps, je me dis, c'est bien plus à son service qu'elle fasse vraiment le tour de tout ce que j'ai déjà en gratuit, entre guillemets, et qu'on précise davantage ce dont elle a vraiment besoin pour qu'elle aille au bon endroit. Et du coup, c'est beaucoup plus long-termiste. Mais, j'aurais, entre guillemets, pu lui vendre direct un truc, là. Alors que pour moi, c'est pas l'intention de base, en fait.
Ouais, complètement. En fait, ce que tu viens de décrire, ça pourrait paraître un peu contre-productif, genre en mode, mais attends, Thomas, t'avais une perche là devant toi, tu l'as pas prise, etc. Et en fait, non, quoi. Parce que j'ai été dans le commerce, du coup, bon, voilà, des formations sur la vente, des sketchs de vente, etc. Je m'en suis mangé un paquet pendant mes formations quand j'étais salariée, etc. Et je me souviens un jour, on avait un coach de vente qui m'a dit « Non, mais tu sais, Pauline, ce qui est important, c'est un bon commercial, c'est pas forcément quelqu'un qui va vendre tout à n'importe qui. » Un bon commercial, c'est quelqu'un qui va vendre quelque chose déjà à quelqu'un qui en a besoin, mais qui va aussi savoir ne pas vendre. Tu vois ? C'est-à-dire savoir dire, bah, écoute, là, c'est pas le bon moment, ou comme ce que tu as fait là, finalement, bah, écoute, en gros, va te nourrir de tout ce que je fais, et puis peut-être qu'il y a un moment donné où véritablement tu auras besoin de moi, et là, à ce moment-là, bah, ce sera le bon moment. Et ça, c'est hyper important aussi, effectivement, la partie commerciale, les relations, finalement, c'est beaucoup aussi une question de timing, et c'est important, et je comprends que ce soit difficile, parce que moi, pour le coup, j'ai énormément de clients qui ont du mal à identifier, tu vois, le nombre des fois de messages sur la même semaine de clients que je reçois et qui m'envoient, tu vois, une impression d'écran et qui me disent, non, mais là, Pauline, je fais quoi? Est-ce que je lui propose un rendez-vous? Je lui propose pas? Qu'est-ce que je fais? En fait, ils sont perdus, tu vois.
Ouais.
Mais voilà, c'est aussi une question de timing et du coup, il faut savoir identifier les timings aussi.
Et qu'est-ce que tu leur réponds du coup ? Comment tu sais, c'est quoi les critères selon toi qui font que tu sais que c'est le bon moment d'aller proposer ou tu sais que c'est le bon moment de passer à l'étape d'après, de dire ok, on passe d'une conversation textuelle à on se prend un rendez-vous et on parle vraiment de ce que je fais. C'est quoi pour toi les critères de passage de ces étapes ?
Alors, pour le coup, là, ça dépend beaucoup quand même du contexte. Mais en général, je vais demander quand même à mon client, je vais lui dire, OK, mais montre-moi la conversation un peu plus haut parce que là, je ne sais pas ce qui s'est passé avant.
Contexte.
Et puis aussi, explique-moi ce qui s'est passé avant, depuis combien de temps vous échangez, est-ce que c'est la première fois, est-ce que cette personne, elle a déjà interagi plusieurs fois, par exemple, si on part d'une quelque chose qui découle des contenus. Est-ce que cette personne, vous avez déjà échangé sur vos contenus? Est-ce que c'est la première fois que tu lui as parlé? Non. Alors déjà, il y a tous ces critères-là en fait qui vont rentrer en ligne de compte. Et puis aussi, il y a bien entendu ce que la personne elle va dire. Si la problématique elle est urgente, en général, tu le vois. Tu vois, il y a ça aussi. Enfin, tu le vois dans la conversation. Il y a des mots qui vont pas tromper. Ouais. Tu vois. Donc c'est difficile de donner quand même une réponse. Tu vois, un peu bateau, quoi. Parce que packager, ça va quand même dépendre de plein de choses. Mais c'est tout un contexte. Et j'ai le souvenir d'une cliente, justement, il y a un mois et demi, là, c'est assez récent. On a fait le tour un peu de tous les contacts récemment qu'elle avait eus, tout confondu, hein, les réseaux sociaux, extérieurs, etc. Et puis, il y a des trucs, tu vois, mais moi, ça me saute aux yeux, quoi. Il y a des trucs, je lui dis, mais attends, mais t'es pas revenu vers cette personne, là? C'est vrai? Ouais. Tu as vraiment fait ça? Et elle me dit, bah non. Je dis, mais attends, mais là, c'est... Vas-y, quoi. Enfin, vas-y. Et ça a pas manqué, tu vois. Elle y est allée. Voilà, je l'ai accompagnée aussi forcément sur comment dire les choses, tu vois, parce que j'accompagne aussi quand même beaucoup sur cette partie-là parce que c'est ça hein, qui fait peur, hein, beaucoup.
Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que je dis?
Comment je vais vers la personne? Qu'est-ce que je dis? Etc. Et tout ça qui englobe... voilà, plein de peur en fait finalement. Mmh. Et elle y est allée et voilà, je suis hyper contente parce que bah tout simplement elle a décroché genre le plus gros contrat qu'elle ait jamais décroché depuis qu'elle est indépendante, tu vois. Et c'est juste trop génial de se dire, mais je lui ai dit après, je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte, Clémentine, que en fait, ce que tu avais envie, ton objectif, il était là, à côté de toi. Mais entre, il y avait un fossé immense, ouais, qui était entre les deux. Et je lui dis, tu vois, t'étais mais juste à côté, quoi. C'est ça. Mmh. Et t'étais juste à côté. Je lui dis, alors, bien sûr, c'est sûr que l'accompagnement est fait, tu vois. Et du coup, je lui dis, tu vois, maintenant, tu sauras, maintenant que tu sais que ça a fonctionné, tu vois, ça lui a donné confiance de refaire, tu vois.
Ouais. Mmh. Et c'est super intéressant parce que ça illustre bien ce que tu disais juste avant sur l'importance du suivi. Parce que je pense que quand tu suis de manière plus consciente les interactions et les relations que tu tisses avec des personnes, parfois 100% en ligne, sans jamais les rencontrer ni discuter vraiment de vive voix, en fait, t'arrives à identifier de manière plus fine ces espèces de déclencheurs de conversation qui peuvent arriver et qui peuvent mener à des propositions ou au fait d'accompagner les gens. Et ça me fait atterrir sur un truc dont tu parles régulièrement, oui, et dont moi aussi j'essaye de parler vraiment régulièrement aux personnes que j'accompagne, qui est la mise en place d'un espèce de CRM quand t'es freelance, tu vois. Et je pense qu'on a très vite fait de se dire c'est un outil pour les grosses boîtes et ça fait peur, cet acronyme CRM, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors que quand t'es free, d'autant plus quand le modèle de ton business c'est j'ai peu de clients que je prends en consulting et on paye soit auto-journalier, soit des forfaits plus élevés de plusieurs milliers d'euros d'un coup, ben c'est tellement important. Parce que justement, si tu signes peu de clients, ben ça veut dire que tu vas pas être en relation avec 1500 personnes en même temps et tu vas pouvoir qualifier comme ça et vraiment avoir une vraie qualité de suivi, quoi.
Ouais, complètement. Le CRM, effectivement, c'est un outil qui... Moi, des fois, j'ai des clients, ils ont une véritable aversion, tu vois. Mmh. Tu leur parles de CRM et ils sont là... Ah bon? Ah non, mais hors de question, je mets pas en place un CRM et tout. Et après, quand tu leur expliques, tu vois, ils comprennent que bah, c'est super bon pour eux et que c'est un outil qui va les aider à pérenniser aussi leur entreprise, leurs relations, leur réseau, enfin, tu vois. Et puis aussi, je reviens un peu là-dessus, mais il y a un peu ce, tu vois, la vente, c'est diabolique, c'est pas bien. Et du coup, ils ont l'impression quelque part de se dire, oui, mais attends, Pauline, si je rentre cette personne dans mon CRM, c'est mal, quoi. Enfin, tu vois, tu sais, ils sont là, mais attends, mais c'est hyper calculé, machin. Je lui dis, écoute, t'as bien les prénoms de tes proches, enfin, pas de tes proches, mais peut-être de gens proches sur ton calendrier avec leur anniversaire, tu vois. Est-ce que tu trouves que c'est mal? Ou est-ce qu'au contraire, tu trouves plutôt que c'est plutôt une façon d'avoir un intérêt pour quelqu'un, parce que si tu le rentres sur ton agenda, c'est parce que t'as pas envie d'oublier, tu vois, et c'est important pour toi. Et tout de suite, ils sont là. Mmh. Ah oui, c'est vrai.
Bah ouais, grave. Et effectivement, je trouve ça important de noter cette différence entre j'ai vraiment à cœur de prendre soin et c'est pas 100% calculé, tu vois, parce que ce qu'on se dit là sur les déclencheurs de conversation, ouais, et tout, tu peux très bien le prendre de manière ultra froide en mode ok, c'est ça qui marche, je vais faire ça 100% et je vais tout faire pour augmenter mon chiffre d'affaires et n'en avoir absolument rien à foutre des gens en face de toi. Mais tu peux aussi le prendre en mode I care, tu vois, j'ai vraiment à cœur de prendre soin et je vais utiliser des choses qui vont m'aider à encore mieux prendre soin.
Ouais, totalement. C'est super bien dit, c'est exactement ça. Et moi, le CRM, pour moi, c'est ça. C'est vraiment le côté, le bon côté et pas le côté. Après, c'est sûr que, de toute façon, c'est comme tout, hein. Un outil, c'est neutre. Après, ça dépend ce que t'en fais et comment tu vois les choses. Mmh. Et le CRM, si tu le vois comme tu l'as dit, eh bien, c'est parfait.
Ouais. Et du coup, comment tu structurerais ça? Genre, imaginons, on a face à nous des graphistes, des consultants, des social media managers, des gens qui, du coup, sont sur cette structure de freelance de, voilà, j'ai des missions de consulting, j'accompagne une poignée de clients sur des missions bien précises. Comment, pour toi, tu structurerais le fait de suivre ces relations avec des gens que tu croises sur les réseaux, des prospects dans ce qu'on appellerait un CRM? Qu'est-ce que tu mets dedans?
Alors, je vais peut-être expliquer rapidement, je trouve en tout cas, comment le CRM est utilisé de façon sans en connaître vraiment tous les rouages. Mais souvent, le CRM est utilisé à partir du moment où tu fais une proposition. Tu vois, à partir du moment où tu fais une proposition, là, tu commences à rentrer ton contact dans ton CRM en te disant, bon, OK, je lui ai fait une proposition, je vais le relancer telle date, etc., etc. Et en fait, pour moi, l'enjeu du CRM, il n'est pas là. Oui, il a un intérêt à ce moment-là, mais l'enjeu du CRM, il est avant. Non, mais exactement, l'enjeu du CRM, il est avant. Et finalement, tu vas rentrer dans ton CRM toutes les personnes, pas seulement des clients potentiels, mais aussi des partenaires ou même prescripteurs parfois potentiels. Parce qu'on a tendance à toujours vouloir client, 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 client. Or, pour moi, un business, il est vraiment porteur quand il est dans une sorte d'écosystème un peu où tu as des prescripteurs, des partenaires. Et des fois, les prescripteurs, dans certains business, clairement, ce sont des viviers d'opportunités d'affaires. Et parfois, t'as même pas besoin d'aller vers ton client parce que tu travailles tellement bien tes prescripteurs et tellement bien tes relations prescripteurs que tu te fais recommander hyper régulièrement et du coup, t'as absolument pas besoin d'aller chercher, tu vois, le client.
Ouais.
Donc, ce qui est important, c'est d'identifier, on va dire, ces personnes-là, mais aussi d'identifier à quelle phase ils sont dans le parcours d'achat. Mais à partir du moment où il y a une opportunité, potentiellement, tu peux faire rentrer quelqu'un dans ton CRM. Maintenant, c'est plus complexe que ça quand même. Hein, mais
Ouais. Ben, on va peut-être pouvoir le décortiquer. J'allais dire, pour préciser pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ce que c'est un CRM, en gros, pour faire ultra simple, c'est une liste des personnes clés avec qui vous êtes en relation à l'extérieur de votre boîte. Et comme le disait super bien Pauline, ça peut être des clients potentiels, des partenaires potentiels, donc avec qui vous travaillez pour servir les clients, et les prescripteurs, pour ceux qui n'auraient peut-être jamais entendu ce mot pareil, c'est des personnes qui sont davantage en contact avec vos clients potentiels que vous et pourraient vous recommander auprès d'eux pour bosser avec eux. Et effectivement, comme tu le dis super bien, il y a plein de business qui sont construits que sur de la relation prescripteur et dont les missions ne tombent que comme ça. Et moi, par exemple, quand je faisais toutes mes missions branding, c'était en grande majorité ces jeux de réseau avec des prescripteurs, autant le collectif duquel je faisais partie où il y avait des missions qui rentraient tout le temps et j'étais en super bonne relation avec la personne à la tête de ce collectif qui du coup me plaçait tout le temps sur les missions, mais aussi d'anciens clients qui me recommandaient auprès de leur réseau interne dans les incubateurs de start-up et tout, qui étaient devenus mes prescripteurs. J'avais bossé une fois avec moi. Enfin plutôt, j'avais bossé une fois avec eux. Et ensuite, 3, 4, 5 fois, ils m'ont recommandé à d'autres parce que je gardais un lien avec eux, quoi.
Ah ben voilà. Voilà, t'as tout dit parce que tu gardais un suivi. Et puis, il n'y a pas aussi, dans les prescripteurs, je pense que c'est important de le préciser, il n'y a pas que les clients, il n'y a pas que les gens avec qui on a déjà travaillé. Il y a aussi des gens qui comprennent totalement ce que vous faites et qui vous suivent, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui vous apprécient, avec qui vous avez déjà un petit peu échangé, qui vont vous recommander sans avoir travaillé avec vous. Moi, tu vois, moi, ça, je l'ai énormément. Je compte pas le nombre de gens sur LinkedIn qui m'écrivent, qui me disent « Ah, j'ai un client, j'ai ci, j'ai ça. Est-ce que je peux te recommander ?» Alors que je n'ai jamais parlé avec eux. Donc, c'est hyper important aussi de noter que bah, dans les prescripteurs, il n'y a pas que les clients.
Ouais, c'est super pertinent ce que tu dis. Et je serais curieux de t'entendre, du coup, maintenant qu'on a identifié un peu les différents profils, clients, partenaires, prescripteurs, concrètement, dans ce CRM, dans les fiches de suivi de chaque personne, par exemple, qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur? On va identifier les gens, les catégories et les mettre dedans, mais qu'est-ce que tu mettrais dans la fiche de quelqu'un, les matières premières, quoi?
Alors là, il y a quand même des choses qui vont revenir souvent, mais ça va être aussi en fonction du contexte. Moi, ce que je trouve important de se mettre, c'est le contexte dans lequel vous vous êtes rencontrés. Et les réseaux sociaux, c'est l'équivalent d'une rencontre, hein. Donc, si vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes parlé sur LinkedIn suite à tel contenu, c'est important de noter. Je trouve ça aussi intéressant de venir se mettre parfois une partie de la conversation qu'on a besoin de se souvenir. Ça aide énormément à faire des relances intéressantes, quoi. Pas juste revenir vers la personne avec un vrai contexte. Et là, pour le coup, on est vraiment dans le care. Tu parlais tout à l'heure, mais là, on est vraiment dedans. C'est-à-dire, si quelqu'un te dit, bah là, actuellement, je suis sur tel projet, je suis dans le rush ou j'en sais rien, bah, je trouve ça hyper intéressant et hyper care, encore une fois, de venir et de dire, bah, ok, bah, t'en es où? Raconte-moi, dis-moi comment ça a avancé ce projet, etc. Donc, ça, je trouve que c'est important de noter aussi ces choses-là. Après, bien sûr, après, ça va être des trucs hyper. La date, la dernière fois que vous êtes parlé, aussi l'échéance que tu souhaites te mettre maximale pour une reprise de contact potentielle. Ouais, là, je pense que j'ai fait pas mal le tour des trucs vraiment hyper importants. Et aussi potentiellement, des fois, tu peux aussi savoir quelle opportunité ça peut être. Donc, par exemple, tu peux te dire, visiblement, c'est plutôt pour telle chose maintenant à vérifier, tu vois, par exemple. Tout en sachant que, bien sûr, c'est des notes internes, hein, donc personne ne les voit. Donc, l'idée, c'est plutôt que vous compreniez, que vous compreniez quand vous revenez dessus, quoi, sur la fiche.
Ce que j'entends, du coup, c'est qu'en gros, il faut mettre à l'intérieur toute la matière première et les outils dont on peut avoir besoin pour développer les relations qu'on développe et aller plus loin et savoir, ok, c'est quoi les enjeux de telle personne, comment je peux rebondir dessus, comment on peut mieux être à leur service et suivre le développement de la relation, quoi. Parce qu'encore une fois, dans ce modèle freelance où on a en général peu de clients, on n'a pas des centaines de clients en même temps, mais du coup, c'est important d'accompagner les prises de décision de ces personnes-là pour qu'elles passent de voilà, je me pose des questions à potentiellement je travaille avec toi. Et du coup, ça nous permet de suivre ces évolutions et d'arriver potentiellement à des moments de signature, peut-être 6 mois après avoir eu la première conversation.
Ouais, exactement. Exactement. Et c'est vrai que, y a beaucoup, beaucoup de freelance, d'indépendants qui, comme je te disais, l'utilisent principalement à partir du moment où le contact est déjà qualifié, tu vois. Et pour moi, le véritable enjeu, il est avant. Il n'est pas à ce moment-là, quoi.
Ouais, et ça me fait penser à un autre truc que j'avais pas mal observé et dont j'avais parlé assez longuement dans mon séminaire Excellence Marketing Indépendant de l'année dernière, qui est le fait que je suis sûr, et pour vous qui nous écoutez, c'est sûrement le cas, que vous avez autour de vous des gens avec qui vous avez déjà une relation forte, qui savent ce que vous faites et pour qui vous pourriez apporter de la valeur, vous pourriez répondre à leurs enjeux du moment, ils ont besoin de ce que vous faites. Mais voilà, mais la proposition se fait pas. C'est-à-dire que la personne, le freelance, ne propose pas, et donc il se passe rien. Et je pense qu'on a un peu ce fantasme ou genre cette obsession de vouloir toujours aller vers des nouvelles personnes, des nouveaux clients, construire des nouvelles relations, développer sa visibilité, etc. Alors qu'il y a des gens qui sont là, juste à côté de nous, avec qui il a déjà la confiance nécessaire pour qu'on avance ensemble et qu'on bosse ensemble, quoi. Et ça, je pense, c'est un truc qu'on sous-estime radicalement parce qu'on surestime l'envie d'aller conquérir de nouveaux horizons, alors que juste là, à côté de nous, il y a déjà des gens avec qui on peut bosser maintenant, si on leur propose, et du coup, le CRM sert beaucoup pour ça.
Exactement, et ça me fait penser aux relations, tu sais, sur LinkedIn, il y a premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, et des fois, j'ai des clients, ils sont focus, tu vois, sur les deuxièmes niveaux. Et je lui dis, mais non, mais tes premiers niveaux, t'en fais quoi, en fait? Tes premiers niveaux, fais-en quelque chose. Tes premiers niveaux, t'as déjà eu un contact, t'en as pas eu, enfin, tu vois. Et en fait, ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire que oui, il y a plein de choses aussi autour de nous. Et ça me fait penser aussi que moi, quand j'ai lancé ma formation en ligne, du coup, il y a plusieurs mois maintenant sur LinkedIn, j'ai fait appel à une agence pour mes ads. Et en fait, il y avait une des agences avec qui j'ai eu un entretien, tout simplement. Je lui ai dit, moi, mon objectif, c'est de convertir une partie de mon audience. Donc, les personnes qui me connaissent déjà. Je ne cherche pas à faire de cold, je ne cherche pas à aller chercher au-delà. Je veux tabler sur les gens qui me connaissent déjà. Et en fait, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Ils étaient là, mais bon, mais tu veux pas aller chercher tout ça. Bon, j'ai pas travaillé avec eux. Mais tu vois, mais en fait, mais non, quoi. Pourquoi aller forcément chercher toujours du nouveau? Non! Les opportunités sont juste à côté de toi. Pourquoi tu te fatigues à aller au-delà?
Bah ouais, c'est super pertinent ce que tu dis et je trouve ça drôle que tu l'aies intégré même dans ton plan de lancement. Et ça fait écho à quelque chose dont j'avais parlé dans un de mes épisodes sur les fondements de ce que ça nécessite de signer de nouvelles missions, trouver de nouveaux clients et créer des nouvelles relations freelance-client, qui est la confiance. Et tout part d'une relation de confiance fondamentale. C'est un peu la devise sur laquelle on doit travailler, la confiance. Et pour avoir ces relations, des fois, ça met longtemps à développer, quoi. Et du coup, c'est pour ça, c'est important, à mon sens, de valoriser les relations qu'on a déjà construites et de continuer d'investir dessus pour continuer de créer de la confiance. Et que du coup, ça se joue sur le long terme parce que, ben voilà, des fois, il y a des processus décisionnels, il y a des gens, ils vont nous suivre pendant 1 an, 2 ans peut-être même, et ensuite décider de travailler avec nous quand ce sera le bon moment par rapport à ça, quoi. Donc, je trouve ça super pertinent de ta part de te dire, je vais convertir d'abord les gens qui me connaissent et apprécient ce que je fais, et après, on va aller voir par ailleurs.
Ouais, totalement. Et d'ailleurs, je sais pas si ça rentre là dans le sujet, mais moi, j'aime beaucoup tes lancements. Tes lancements, je les observe voilà, avec un œil plus haut, on va dire, je regarde, je vois. Et j'aime beaucoup tes lancements parce que justement, tu dis ce que je viens de dire, ce que j'ai fait moi aussi dans mes lancements, finalement, c'est tu fais d'abord avec la richesse que tu as créée déjà. Et tu vas pas forcément chercher plus parce que tu as déjà une communauté, une audience qui te fait confiance, qui aime ton approche, qui aime tes valeurs, ton message. Et du coup, tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin, pas toujours en tout cas. Et je sais que moi, c'est quelque chose que je perçois dans tes lancements et que j'apprécie beaucoup.
Ah ouais, c'est trop stylé de savoir ça. J'avais aucune idée que tu l'analysais. Mais du coup, ça me rend super curieux de savoir de ton œil extérieur ce que tu perçois. Parce qu'effectivement, oui, c'est un truc qui m'est cher et que j'essaie de travailler même sur mes lancements. Mais j'aimerais vraiment savoir si ça te va de partager. C'est de manière un petit peu égoïste de savoir ce que tu perçois de l'extérieur pour voir la divergence ou la convergence de ce que j'essaie de faire avec ce que tu perçois de l'extérieur. Mais je serais super curieux que tu m'en dises un peu plus sur qu'est-ce que tu vois de mes lancements, quoi, quand tu les observes.
Moi, je vois en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, que tu essaies de consolider la relation que tu as avec ton audience et aussi tu essaies quelque part de les accompagner dans tout leur parcours et pas seulement à une étape. Tu vois, c'est comme ça que je vois en fait. C'est pas seulement tu vas essayer de leur vendre une formation, un truc de plus. De toute façon, on le voit avec notamment ton membership. Bah, clairement, ton membership, c'est un peu le point d'entrée à Thomas Burbidge, tu vois. Et du coup, on saisit que tu vas les prendre par la main quelque part beaucoup plus longtemps que simplement le membership, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Je sais pas si c'est juste ce que je vois, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Bah écoute, c'est plutôt fidèle, hein. Et c'est cool, ça me donne une plateforme pour m'exprimer un peu dessus. En gros, moi, toute la réflexion que j'essaye d'avoir avec ce que je construis, mais surtout dans le lien avec chaque personne qui devient client d'une de mes expériences pédagogiques ou chaque personne qui me suit et suit mon travail, je me dis, en fait, je suis pas là pour absolument vendre ce que je produis là, maintenant, tout de suite, mais j'essaye vraiment de me reposer dans une sorte de confiance, de me dire, en gros, j'ai envie de pouvoir contribuer à un maximum d'indépendants et d'indépendantes à un moment donné de leur parcours. Et je suis là pour 10 ans, tu vois, 15 ans, 20 ans. Et nourrir la confiance que je suis là en toile de fond. Et que les personnes vont peut-être acheter telle formation chez quelqu'un ou telle autre chose chez quelqu'un d'autre. Mais que moi, ce que j'essaie de construire, c'est une relation tellement long-termiste qu'il y a forcément un moment où ce que je vais produire et créer, ça répondra aux besoins d'une personne et ce sera sûrement un différent moment pour différentes personnes, mais qu'on aura cette profondeur de relation qui fera qu'à un moment, ce sera le bon moment. Et si c'est pas maintenant et que c'est dans 10 ans, bah c'est OK, quoi. Et ça, j'essaie vraiment de le travailler et de l'intégrer du coup dans tout ce que je fais, y compris dans les lancements.
Bah tu vois, je l'ai perçu. Donc, c'est plutôt réussi, quoi.
Ben, écoute, Pauline, je suis ravi que tu valides
mes lancements et mon marketing. et c'est cool d'avoir ce regard extérieur. En vrai, ça me soutient et ça montre que voilà, ce que j'essaye de faire est perçu de l'extérieur. Donc, c'est très cool. Et ça me fait penser aussi que j'aimerais bien t'entendre après tout ce qu'on s'est dit de manière terre à terre. T'en as parlé un moment dans l'épisode. J'aimerais bien qu'on parle de ce que c'est pour toi le parcours d'achat. Parce que je pense que c'est une notion qu'on a tous déjà plus ou moins entendu parler. Mais les gens maîtrisent pas forcément qu'est-ce que ça veut dire un parcours d'achat et comment on fait pour se mettre dans la peau de nos clients et de réfléchir à leur parcours d'achat.
Le parcours d'achat, je vais essayer de donner genre une définition, tu vois, pas bateau, même si ça va être compliqué, mais c'est le moment où les gens commencent à vous connaître. Et à la fin, ils arrivent à acheter chez vous, quoi. Entre-temps, il y a une multitude d'étapes qui sont importantes, je trouve, de pouvoir identifier. Notamment, tu vois, si on revient sur la partie vraiment, on rentre à l'intérieur dans la partie conversationnelle, c'est important de savoir à peu près, parce que c'est jamais, tu vois, c'est aussi une perception, hein, à peu près où il en est, où cette personne est dans le parcours d'achat. Et c'est OK aussi de se dire que des fois, la personne, elle va rester à la première étape pendant 2 ans, tu vois. Il n'y a pas de problème avec ça. Et surtout, le parcours d'achat, il va être sensiblement quand même, hein, forcément différent d'un business à un autre, d'une entreprise à une autre. Mais je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais, mais on peut dire que c'est ça, ouais. C'est le premier moment, l'entrée par laquelle ils arrivent, et puis après ça, je dis ça se termine, mais en réalité, tu vois, non, l'idée c'est pas que ça se termine, ou en tout cas c'est qui bien entendu, mais on va dire que in fine le bout du parcours c'est l'achat.
Ouais, c'est clair, et je vais essayer d'apporter mes mots du coup pour l'illustrer, pour qu'il y ait deux visions. En gros, ce que moi je dirais sur le parcours d'achat, c'est il faut rentrer dans le monde de l'autre personne, de nos clients cibles, et se demander, OK, pour acheter tel ou tel service, et du coup nos services à nous, c'est quoi tout le circuit décisionnel par lequel cette personne va passer? C'est-à-dire, c'est quoi les étapes très concrètes de sa réflexion pour qu'elle passe de « Ah tiens, je découvre Pauline Sarda » à « OK, je vais prendre un accompagnement avec Pauline Sarda ». Et du coup, il y a des étapes très claires, et du coup, les identifier, ça nous permet ensuite de mettre en face des outils marketing ou des propositions ou des choses qu'on peut faire pour accompagner la personne dans sa prise de décision. Et ça me renvoie à autre chose dont on n'a pas parlé, mais qui est faite centrale finalement dans ça, c'est cette empathie dont il faut faire preuve pour rentrer dans le monde de nos clients idéaux. Et revenir à ce truc qu'on a dit maintes et maintes fois encore, à quel point c'est hyper important de vraiment connaître sur le bout des doigts les gens avec qui on veut travailler, quoi.
Exactement, en fait, on revient un peu aux fondamentaux que tout le monde n'en peut plus d'en entendre parler, mais c'est super important, c'est la cible, c'est la personne avec qui va acheter vos produits, quoi. C'est à elle qu'il faut parler, et c'est sûr qu'au début c'est toujours plus difficile. C'est pour ça que l'enquête terrain est essentielle pour moi, parce que j'en discutais justement avec quelqu'un que j'avais en rendez-vous hier, qui me disait, mais en fait j'ai fait mon persona, etc. Et puis je dis, ok, mais comment tu l'as fait ton persona? Puis là, en fait, bien entendu que c'est une imagination qui a fait un excellent persona avec un âge, une ville, enfin tout est beau, mais tout est faux. et forcément, je pense que le parcours d'achat, ça se bien sûr, on peut l'affiner avec l'enquête terrain notamment, mais on l'affine aussi et surtout avec l'expérience aussi, tu vois. Je pense que c'est important de se dire que bien sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour mieux connaître son client au démarrage, ou notamment quand on construit une offre, hein, tout simplement. Mais c'est OK aussi de se dire que des fois il peut rester encore quelques zones d'ombre, et ces zones d'ombre, c'est l'expérience, hein, qui fait aussi. Enfin, tu vois, moi, forcément, je connais encore mieux ma cible aujourd'hui que je ne la connaissais il y a 2 ans. Et pourtant, j'ai fait une enquête terrain, tu vois. Donc, mais c'est clair que, voilà, l'enquête terrain, c'est essentiel. Je pense que tu ne diras pas le contraire, à mon avis.
Je suis 100% d'accord avec toi. Parce que, et du coup, ça me permet d'illustrer un peu aussi l'approche que moi je propose, parce que finalement, c'est assez similaire de il faut faire l'enquête terrain, que moi j'appelle la méthode du détective, et j'ai toute une partie avant aussi que je partage dans ma formation sur la construction des offres, sur comment tu fais pour rentrer vraiment dans le monde de l'autre et cultiver, du coup, moi, ce que j'appelle l'empathie extrême, qui est de vraiment essayer de vivre et de voir le monde par les yeux de l'autre. Et je pense que ce qui est vraiment important pour ça au début, c'est que ce processus-là, quand on le fait, quelque part, ça formate un peu notre cerveau et notre recherche pour être tout le temps en mode observation et capter toute la matière première que l'expérience nous emmène petit à petit pour vraiment savoir, ah oui, tiens, c'est ça qui est en train de se passer pour l'autre. Ah tiens, je comprends mieux. Parce qu'on sait ce qu'on cherche, en fait. Alors que si tu fais pas cette étape-là au début et que tu fais un persona un peu comme celui que tu disais là de voilà, j'ai mis la ville, l'âge, sa marque préférée, en fait, tu sais pas ce que tu es en train de chercher quand tu es dans tes interactions. Et du coup, c'est beaucoup plus dur de ensuite savoir, ah tiens, je capte les trucs et ainsi de suite, parce que juste ta manière d'observer et ton cerveau, tout simplement, est pas formaté pour chercher ces infos-là.
Ouais, totalement. Et puis en plus, c'est à travers ton prisme à toi, pas celui de ton client idéal, tu vois. Et des fois, c'est assez fou de voir les fossés gigantesques qu'il y a entre ce que toi, tu t'imagines et ce dont la personne a vraiment besoin, tu vois. Des fois, il y a des… c'est hallucinant, quoi. Et donc ça, c'est hyper important aussi pour ça, quoi. C'est ce que tu disais, en fait, d'être dans l'empathie genre extrême, quoi.
Et ça montre que, en fait, il y a vraiment pas de secret, quoi. La base, c'est génère des conversations, pose-leur la question à eux depuis leur spectre, de quoi t'as besoin, qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir, pourquoi c'est important pour toi, qu'est-ce que tu veux vraiment derrière ça, et pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi, enfin vraiment creuser, et la personne elle va te le dire, en fait. Et à partir de là, c'est ok, voilà ce que j'ai compris, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Voilà ce que je peux te proposer avec mes compétences. Est-ce que ça te dit qu'on avance sur la solution ensemble?
Ouais, totalement. T'as tout dit.
Cool. Bon, je pense qu'on a bien couvert pas mal de choses. Ce que je te propose, Pauline, c'est, bon, pas forcément, on va faire l'exercice ensemble, mais si on essaye de refaire un dézoom sur toute la conversation qu'on a eue et qu'il y a des gens qui sont en face de nous qui se disent, ok, j'ai envie de générer des opportunités, et commencer à voilà être en interaction avec les personnes qui sont déjà autour de moi dans mon réseau deuxième niveau, peut-être comme tu disais pour LinkedIn. C'est quoi, si on essaye de poser les étapes et la démarche, ça ressemble à quoi la démarche, dans quel ordre, qu'est-ce qu'on fait en premier, voilà, si on essaye de leur faire des steps comme le nom de ta boîte step 1, step 2, step 3, ça ressemble à quoi pour que les personnes aient presque un plan d'action, tu vois?
C'est large. C'est large parce qu'il y a tellement de possibilités, mais je pense que ça va être de créer du lien. C'est même pas un plan d'action, c'est créer du lien. Soyez ouvert et en veille sur tout ce qui se passe autour de vous et suivez ce qui se passe et ne soyez pas dans l'attente, tu vois. C'est vraiment il faut switcher, en fait. Il faut passer à un moment donné où se dire, faut arrêter d'être dans l'attente, il faut aller chercher, il faut aller converser, il faut se frotter au terrain, quoi. Il faut parler aux gens, il faut et ça paraît très simpliste, tu vois, dit comme ça, mais il y a tellement de choses qui se passent comme ça. Et je reviens encore, j'en ai parlé plusieurs fois sur l'épisode, sur moi, au début de mon activité, je suis pas restée, alors je dis restée derrière mon ordinateur, mais j'aurais pu faire la même chose aussi derrière mon ordinateur, hein, c'est totalement possible. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis posée, je me suis dit, ok, quelles sont les choses que tu vas pouvoir mettre en place qui vont te faire rencontrer des gens, qui vont te faire rencontrer des clients potentiels, et qu'est-ce qui va faire que tu vas être les gens vont te connaître, tu vas gagner en visibilité, tu vas être vu, les gens vont vouloir parler avec toi, tu vois. Je suis partie, en fait, finalement, de quelque chose de très simple, hein, Parce qu'on va toujours chercher le truc compliqué, ouais. Ou alors on se cache beaucoup derrière, je dis souvent ça, mais derrière son ordinateur. Au final, tu vois, Internet, il est là pour faire que les gens, ils communiquent plus facilement quelque part, mais en fait, non. On rend ça plus difficile. Donc, faut revenir un peu à la base. Et il faut converser, il faut rencontrer.
Ouais. Tu vois. Donc, ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe déjà autour de nous. Et ensuite, en gros, en mode, je cherche des opportunités d'aller discuter avec des gens qui peuvent être intéressants pour aller dans le sens d'aider plus de personnes qui sont les clients. Parce que j'imagine que la base, c'est vraiment vouloir aider les autres.
Ouais, totalement.
Donc, je suis en mode veille. Je cherche les gens avec qui, ah tiens, là, je peux discuter. Je vais discuter et après, voilà, je suis la relation et on atterrit sur le CRM et le parcours d'achat dont on s'est parlé là, quoi.
Ouais, exactement. Tu vois, tu as mieux défini les choses que moi. En tout cas, plus simplement, de manière plus courte, tu vois.
On va dire que je t'ai bien écouté. Ok, cool, cool.
Du coup, Pauline, on va arriver tranquillement sur les questions rituelles de fin d'épisode. Avec la première où on va revenir un peu au début dont on a parlé quand même le début de ton aventure, mais on va cette fois-ci s'adresser à Pauline. C'est son tout premier jour d'indépendante et la question que je te pose, c'est quel est le conseil que tu te donnerais à toi-même si tu pouvais lui parler?
Même si ça fait peur, vas-y. Je crois que c'est ça que je dirais et d'ailleurs je l'ai fait en fait. J'ai plein de choses qui me faisaient peur et j'y suis allée quand même parce que je savais qu'il fallait que c'était des étapes par lesquelles il fallait que je passe. Je savais que c'était un peu genre, tu vois, l'épreuve du feu, quoi, tu vois. Un peu comme Tony Robbins qui fait passer les gens qui vont dans ses confs et tout, qui les fait marcher sur le feu, tu vois. Bah, c'est un peu ouais. Ça, quoi. Genre, dans tous les cas, il va falloir que tu y ailles, donc vas-y, quoi. Tu vois.
Je vois ce que tu veux dire. Et c'est en même temps, du coup, un bon conseil pour le monde extérieur, les gens qui nous écoutent, parce que je pense, face à ce qu'on leur dit, voilà, va créer des conversations et tout, bah ouais, peut-être ça fait peur, mais du coup, voilà, Pauline qui se dit à elle-même, ça peut faire peur, mais vas-y.
Ouais, non, mais c'est clair, mais oui, puis en plus, c'est marrant que tu dises ça, parce que je sais que j'ai un peu l'image de quelqu'un qui a peur de rien, tu vois, on me le dit souvent, mais en fait, non, quoi. J'ai peur de plein de choses, c'est juste que peut-être que j'y vais et du coup, tu as l'impression que j'ai pas peur. Mais en fait, si, j'ai peur, quoi, comme tout le monde. Mais voilà, je rebondis là-dessus en même temps. Mais...
ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai que de l'extérieur, en plus, je pense avec... parfois, quand tu partages en story, le sport et tout, t'as un peu l'image de Pauline, la femme puissante, quoi.
Ah, je sais pas, mais en tout cas, j'ai conscience de ça, que les gens me le disent, tu vois, souvent. Donc, je pense que c'est humain d'avoir peur. Tout le monde a peur à n'importe quel moment de sa vie, tu vois, là, d'indépendant, d'entrepreneur, etc. On a des challenges qui avancent parce que tu sais aussi de l'extérieur, quand on commence à avancer dans son business, bah, les gens, tu vois, ils se disent, ah ouais, mais, de toute façon, au point où ils en sont, ils n'ont plus peur de rien, tu vois. On a un peu cette impression-là. Mais en fait, non, on a à chaque palier ces difficultés, tu vois.
Grave, ça ne s'arrête jamais. Le doute, la peur, l'appréhension, toutes ces choses-là, y a toujours une autre étape, quoi.
Exactement.
Mais on va continuer dans cette veine-là, du coup, puisque la prochaine question, c'est depuis que tu t'es lancé, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as vécue? Et comment tu as fait pour dépasser cette difficulté-là?
Je dirais que il y en a deux, mais il y en a une que je n'ai pas trop dépassée, tu vois, encore. La première, c'est une difficulté très, très cool, mais qui emmène son lot de problèmes. C'est l'organisation, la surcharge de travail. Où je me suis retrouvée à un moment dans mon activité où ça a fait un bond. Trop de demandes, trop d'attentes sur les rendez-vous prospects, trop de sollicitations, trop. Et là, je savais plus. Et puis, en fait, si tu veux, j'avais démarré un peu en mode, tu vois, même dans mon organisation, dans mes semaines, j'avais pas de moment précis pour certaines choses, j'avais pas, les rendez-vous, ils étaient pris un peu au moment où il y avait une case vide, tu vois, quelque part. Et sauf que ça, c'était possible quand j'avais des clients, que ça se passait bien et que voilà, c'est, j'étais sur un bon rythme. Mais dès que ça a commencé à s'accélérer, là, par contre, c'était intenable, mais intenable. Donc là, ça a été très compliqué. Et pour dépasser ça, j'ai revu mon organisation, quoi. Et je me suis pris aussi quelques jours de repos parce que j'en avais besoin, tu vois. J'étais pas en burn-out non plus, mais enfin, je pense que j'ai eu une période où je l'ai frôlé, quoi. Tu vois, j'étais vraiment, j'en pouvais plus, quoi. C'était. Et puis, tu sais, t'as aussi un peu ce syndrome de te dire, non, mais en fait, Pauline, arrête de te plaindre. Tu peux pas te plaindre. T'as du business, ça marche. Tais-toi, quoi. Ouais, vas-y, fonce, quoi. Tu vois? Et du coup, tu dis, t'as pas le droit. T'as pas le droit de te plaindre. C'est pas possible. Sauf que je me souviens, j'en avais fait une story, quoi. À un moment donné, elle faisait 10 plombes, ma story. Mais j'ai expliqué. Je dis, non, mais là, en fait, je suis épuisée, quoi. Genre, j'en peux plus, quoi. C'est à un moment donné. Et donc, ça, je pense que ça a été le plus compliqué. Et tu vois, parce que ta question, c'est au début. Mais en fait, comme c'est arrivé assez vite, j'ai l'impression que c'est au début, en fait. Mais alors que ça faisait un an, on va dire, ça faisait un an. Ouais. Il y a eu un moment vraiment très, très compliqué à ce niveau-là. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'efforts, on va dire, dans ma manière de gérer mon temps et tout à faire. Il y a toujours des leviers possibles, mais clairement, ça n'a rien à voir. Et pourtant, j'ai plus de travail, j'ai plus de tout, j'ai plein de projets, j'ai ci, j'ai ça, mais j'arrive mieux à le gérer. Mais je pense qu'il fallait que je passe par là, tu vois. Donc,
c'est ça. Et... C'est vrai que c'est à la fois triste et précieux de passer par ces phases-là, parce que quand tu as touché cette espèce de limite haute, bah ça devient si important de prendre soin que j'imagine tu fais bien plus gaffe en amont au fait que ça n'arrive pas jusqu'à ce stade-là. Et c'est vrai que tant qu'on l'a pas touché, bah c'est difficile de se rendre compte, ah tiens, c'est quoi les signes avant-coureurs que je suis vraiment en train de tirer sur la corde. Et du coup, je te rejoins à fond. Et aussi, l'autre truc qui me touche, c'est, et je pense que ça, des personnes qui ont vécu ça savent à quoi ça ressemble dans le ressenti, ce truc de t'as pas le droit, quoi. Ça va, c'est pas si grave. Et cette espèce de culpabilité de je suis épuisé alors que j'ai, entre guillemets, ce que d'autres voudraient avoir et qu'ils n'ont pas. Et je pense que ça t'enfonce encore plus profondément dans le truc et ça peut précipiter le fait de justement aller jusqu'à vrai burn-out où plusieurs mois après, tu peux rien faire. Donc ouais, c'est hyper important qu'on en parle, je pense.
Ouais, non, mais c'est sûr. C'est, après, on apprend aussi à se connaître, hein, à savoir justement les signes avant-coureurs, comme tu disais, là, c'est un peu la limite quand même. Mais clairement, là-dessus, moi, j'ai encore beaucoup de chemin à faire sur le lâcher-prise et tout, parce que... moi je m'arrête jamais, quoi, tu vois, je suis une pile, quoi, hein, donc jamais épuisé la pile, tu vois ce que je veux dire, donc je vais toujours au fond du fond, tu vois, comme au sport, tu vois, tu sais, mon coach il me dit, bah là Pauline, tu dois faire en dessous d'une minute, je vais le faire, hein, mais même si à la fin je meurs, je le fais.
Je pense qu'on se ressemble sur
donc,
ça.
Déterminé, quoi, on y va, quoi. Donc ouais, je pense que c'est ça ma plus grande.
Ouais, ce qui est une qualité de ouf et en même temps un poids à porter et dont il faut être conscient.
Ouais, exactement, c'est ça.
Et du coup là, on va arriver sur une petite question qui est spécifique à la saison 5 que j'ai intégrée pour cette nouvelle saison, qui est toute simple pour l'instant, c'est quel est ton objectif professionnel du moment, Pauline ?
Mon objectif professionnel du moment, elle est large ta question, elle est super large cette question. Mon objectif professionnel, je sais pas, j'aurais plutôt parlé de challenge, mais c'est pas ça la question. Mon objectif professionnel, c'est de, elle est trop compliquée ta question. Thomas.
Je peux la préciser si tu veux.
Ouais, vas-y, ouais, parce que c'est vrai que c'est, tu vois, ça peut être ma vision, ça peut être, tu vois, ça c'est assez, pour moi, là, en ce moment, du coup, c'est...
Je te laisse choisir ton échéance, du coup. Tu peux prendre par défaut l'échéance trimestre, à la limite, mais tu peux sinon choisir échéance à un an, à six mois, à un mois. C'est quoi ton objectif? Genre, si tu devais dire, en ce moment, on est en train de bosser sur ça... Le résultat qu'on cherche à avoir, c'est ça.
Okay.
Donc, un objectif trimestriel, quoi. C'est quoi ton objectif pro du trimestre ?
Mon objectif pro du trimestre, c'est de réussir à bien transmettre ma vision et gagner en leadership, je dirais, par rapport aux personnes qui sont avec moi maintenant. Parce que du coup, je me pose énormément de questions aujourd'hui sur le management, le leadership, etc. C'est des questions que j'aurais jamais pensé à me poser une seule seconde. Parce que au départ, ma vision, c'était absolument pas, moi, je voulais rester toute seule et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, du coup, l'objectif, là, c'est de réussir à faire ça. J'y arrive, hein, j'y arrive. Mais, tu vois, me faire accompagner sur cette partie-là, c'est quelque chose auquel je pense, quoi.
OK. Et la question qui se cache derrière, du coup, c'est, à ton sens, de où il émerge en toi, cet objectif ? C'est-à-dire, si on regarde plus au niveau émotionnel et pourquoi c'est important, d'où ça vient que ce soit ton objectif du moment de bosser sur ton leadership, sur le management, sur le fait d'embarquer les personnes qui bossent avec toi ?
Ouais. Ça vient, je pense, de mon parcours dans le salariat qui a été très, très compliqué, où je ne suis pas toujours tombée sur des managers top. Et surtout, j'ai toujours eu une personnalité qui collait pas forcément toujours dans les équipes, et c'est ça qui a posé problème. Donc déjà, pour moi, j'ai dû passer, tu vois, le cap de me dire en fait, on m'a dit pendant des années que je ne pourrais jamais travailler en équipe, et au final, aujourd'hui, je travaille en équipe. Déjà, il a fallu que je passe ce cap là et du coup, c'est hyper important pour moi parce que, un, je ne pourrais pas amener ma vision où je veux sans les autres. Et deux, je veux être celle qu'on a envie de suivre et pas celle qui impose. Tu vois ?
Ouais.
Et c'est pour ça à quel point, pour moi, tout ça, c'est important, quoi.
Ouais, j'entends que ça vient de l'inconfort passé que tu as vécu dans la posture de il y a quelqu'un qui est mon manager et que je dois suivre, qui te donne envie de prendre vraiment soin des personnes qui aujourd'hui sont dans cette posture-là vis-à-vis de toi, quoi.
Exactement. Ouais, et puis pour le coup, j'ai pas envie d'avoir, tu vois, je rentre très vite fait un peu dans les détails, mais moi, j'ai plutôt envie d'avoir une structure managériale, tu vois, plutôt horizontale. Et justement parce que j'ai pas envie qu'il y ait d'histoire de hiérarchie, de toi, t'es meilleur que lui, ou toi, ta parole vaut plus que... Bref. Et ça, pour moi, oui, tu peux avoir des trucs un peu naturels, tu vois, mais ça se travaille, c'est un métier à part entière, quoi, pour amener les gens avec toi, quoi.
Ouais, trop intéressant, merci. Merci pour ton partage, et ça me parle parce que je suis dans ces problématiques moi aussi actuellement. On s'en parlera peut-être en off après. Et du coup, on prend le moment là de se tourner cette fois-ci vers les auditeurs. On s'est tourné vers ton intériorité, maintenant on se tourne vers eux et elles. Et la question, c'est, tu as droit à une question que tu peux poser à notre audience, aux personnes qui nous écoutent, pour qu'elles prennent un vrai temps pour réfléchir à leur vie d'indépendant et leur business d'indépendant. C'est quoi la question que tu veux leur poser ?
Moi, j'ai envie de leur demander pour que vraiment ils avancent quelque part, parce que moi, ça a été mon cas, ça m'a fait énormément avancer. C'est quelle est ta plus grande force et comment tu peux capitaliser dessus ? Pour moi, c'est vraiment essentiel parce que il n'y a pas de recette toute faite en marketing. Il n'y a pas de recette toute faite pour qu'un business fonctionne. Il y a aussi à prendre en considération vous, qui vous êtes, quelles sont vos forces, vos faiblesses. Moi, par exemple, si j'ai capitalisé sur la partie réseau, rencontres, etc., c'est parce que j'ai une aisance naturelle. Et ça, je le sais. Donc, pourquoi ? Tu vois, c'est comme à l'école, j'ai toujours eu d'excellentes notes à l'oral, tu vois, par exemple. Ben, je sais que je suis forte là-dedans. Donc, il faut capitaliser dessus. Et ça fait faire des bons. Parce que si tu essayes, tu, tu essayes de faire quelque chose alors que t'es mauvais, tu vois, quelque part, que t'as pas, en tout cas, les prédispositions. Ça veut pas dire que ça peut pas changer, attention, mais au départ, en tout cas, tu te freines toi-même.
Grave.
Donc, je pense que c'est hyper important de bien se connaître et du coup, de capitaliser sur sa plus grande force ou sur ses forces.
Ouais, grave. Et d'intégrer ça comme une réflexion stratégique dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans les offres ou dans son marketing, tout ça, je trouve que c'est hyper valeux. C'est hyper pertinent de faire ça et ça fait qu'on a des meilleurs résultats.
Exactement. Mmh. Des meilleurs résultats et puis potentiellement aussi plus vite, même si ça va jamais toujours assez vite, entre guillemets, mais forcément, ça va plus vite puisqu'on se développe grâce à quelque chose qui est facile pour nous.
Ouais, ouais. Trop bien. Elle est excellente, cette question. Et du coup, je vais la reposer. C'est quoi ta plus grande force à toi qui nous écoutes et comment tu peux capitaliser dessus pour avancer dans la direction que tu as choisie pour toi? Trop chouette. Excellent. Merci beaucoup, Pauline, pour tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Clairement, trop bonne conversation. J'ai vraiment kiffé. Et du coup, je suis curieux. Où est-ce que je peux envoyer les personnes qui nous écoutent, qui veulent discuter avec toi, en savoir plus, suivre ton travail?
Bah, pour me contacter, j'ai envie de dire le plus facilement, ça va être, franchement, ça va même pas être LinkedIn, ça va être Instagram, puisque c'est hyper fluide, vous pouvez venir me parler sans problème. Sur LinkedIn aussi, mais il y a la petite demande de connexion, etc., qui des fois, moi j'en ai beaucoup, donc j'accepte pas toujours tout d'un coup. Donc ça sera clairement sur Instagram, vous tapez Pauline Sarda et puis vous allez me trouver rapidement. Sur LinkedIn, bien sûr, et puis après via ma newsletter principalement sur mon site web. Tout simplement.
Très bien. Vous aurez tous les liens dans la description et sur la page de l'épisode sur le site. Merci beaucoup, Pauline. C'était un vrai plaisir et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés.
Merci à toi, Thomas.
Ciao.
Ciao.
Je trouve cet échange avec Pauline hyper riche pour que tu puisses avancer sur ce grand sujet de la génération d'opportunités. Autant avec une approche de réflexion assez haute, finalement, sur la posture, ce qui est important à garder en tête, sur des éléments de mindset, d'état d'esprit, que aussi dans le concret très actionnable du quotidien, notamment sur le CRM, comment rebondir sur les conversations qu'on a eues pour aller générer des opportunités. Si ça n'a pas été le cas, je t'invite vivement à reprendre cet échange, potentiellement même depuis le début, et à prendre des notes pour poser des actions concrètes à mettre en place grâce à ce qui a été partagé ici. J'en profite pour rappeler que ce podcast a pour vocation d'être un véritable outil de travail pour toi dans ton aventure indépendante. Et pas seulement une émission où tu écoutes passivement en te disant « Ah tiens, c'est intéressant », mais sur laquelle tu n'agis pas. Alors je vais rajouter une question à celle de Pauline pour m'assurer que tu passes à l'action. Et la question est la suivante. Quelle est l'action la plus importante que tu peux mettre en place suite à cet épisode pour générer de nouvelles opportunités dans ton business? Je serais très curieux de savoir qu'est-ce que tu mets en place et je t'invite à partager ta réponse sur tes réseaux et à me taguer pour que je puisse le voir. Et si tu veux continuer l'échange, continuer de progresser ensemble sur ce sujet et d'autres, je t'invite vivement à rejoindre les quelques milliers d'indépendants qui lisent chaque semaine ma newsletter sur thomasburbidge.com/newsletter. Et d'ici à cet échange, je te souhaite une très belle journée et on se dit à la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.